Bonjour à tous et à toutes, c'est la rentrée pour votre émission, calmez-vous, ça va bien se passer. C'est une rentrée sur les chapeaux de roue, comme pour toi j'imagine. Et pour bien entamer ce nouveau cycle, j'ai eu envie de te parler de seins, de nibards, de nichons, de tétons, de mamelons ou même de nénés. Ah, qu'est-ce qu'on leur en donne des noms. D'ailleurs, si tu as été te dorer la pilule cet été, tu as pu en entrevoir, apercevoir ou pas, souvent cachés, supportés, à moitié dévoilés. Ces trucs qui pendent et dont on ne sait quoi faire. Physiologiquement utiles et malheureusement trop sexualisés. Enfin, je vais surtout te parler de la chose qui les contient la plupart du temps, le soutien-gorge. C'est un mot que j'ai définitivement occulté de mon vocabulaire et surtout de mon placard. Mais avant de te parler de tout ça, on va remonter le temps. Le soutien-gorge est le bébé du corset que les femmes portaient vers les années 1830-1850. Le tout premier soutien-gorge est apparu au 19e siècle, en 1889 plus précisément, grâce à Herminie Cadol, une révolutionnaire féministe de l'époque. Dans ces années-là, le soutien-gorge était appelé corselet-gorge et était considéré comme novateur et comme élément de bien-être par excellence. C'est sûr que par rapport au corset, il n'y a pas photo. Herminie Cadol, la créatrice de ce nouvel accessoire, promettait un confort inouï. Son but était de libérer les femmes du corset qui provoquait malaise, indigestion, douleurs au dos et aux côtes. Mais la disparition complète du corset se fit bien plus tard pour deux raisons. La première était l'attraction des femmes pour le sport, et la seconde, lors de la Première Guerre mondiale, car les femmes devenaient actives. Bon, jusque-là, on peut dire que ce fut une véritable innovation pour les femmes. Par contre, dans les années 1970, le soutien-gorge est totalement boycotté lors de la révolution féministe, car il est symbole d'oppression. Et là, j'avoue que je les rejoins carrément sur ce point. Hormis que cela soit un symbole d'oppression sociétale, ça l'est aussi au sens littéral du terme. Et oui, parce qu'enlever son soutif, c'est quand même la première chose que font la plupart des femmes en rentrant chez elles le soir. Super paradoxal, finalement. Se l'infliger toute la journée, c'est ok. Mais on revit quand on l'enlève. Alors pourquoi on le met? Et c'est là que ça devient un peu plus compliqué. Je me souviens, pendant mon adolescence, lorsque ma poitrine est apparue, bon, très légèrement, et autant vous dire qu'il n'y avait pas grand-chose, ce fut une réaction immédiate de demander à ma mère de m'en acheter. Sans qu'elle me propose, d'ailleurs. Pourquoi voulais-je absolument en mettre alors que je n'avais quasiment pas de poitrine? Ben parce que je croyais que c'était normal, parce que toutes mes copines en mettaient. C'était comme quelque chose d'inévitable, comme les premières règles, vous voyez, comme une obligation, mais que personne physiquement ne m'avait imposée. Bon, à cet âge-là, on ne se pose pas vraiment de questions et on fait comme tout le monde. Aujourd'hui, il semblerait que les choses soient bien différentes, et tant mieux. C'est le mouvement du no-bra qui va libérer les femmes de cet instrument de soutien, et le confinement n'y est pas pour rien. Tout seul à la maison, en pyjama pendant 2 mois, laissant nos seins divaguer dans nos t-shirts en coton, c'était quand même le pied. Alors dur de reprendre l'habitude d'en remettre. On est si bien sans, pourquoi s'infliger ça? Bon, j'admets, je n'en mets plus depuis longtemps et le cap a été sûrement plus facile pour moi à passer, puisque physiologiquement, la nature m'a pas donné grand-chose et donc finalement, je n'en ai pas l'utilité première. Mais ce n'est pas le cas de toutes les femmes de ce monde et pour certaines, c'est un accessoire indispensable à leur confiance en elles et à leur confort à cause d'une poitrine plus imposante. Mais figurez-vous que même avec une poitrine imposante, vous pouvez zapper cette étape fastidieuse le matin. En fait, c'est juste une histoire d'envie, de libération du corps, d'acceptation de son corps, de conviction et de confiance. Oui, de confiance pour se foutre du regard des autres, parce que c'est souvent ça le frein pour passer le cap. Et à ce qui paraît, le soutien-gorge, ça ne serait pas si bien que ça pour la santé. Une étude a été faite en 2013 au CHU de Besançon par Jean-Denis Rouillon. Il a suivi et observé 330 femmes de 18 à 35 ans pendant 15 ans. Il leur a demandé de laisser libre leur poitrine pendant tout ce temps-là. Les résultats ont montré un raffermissement et un renforcement naturel des tissus musculaires et aussi une meilleure posture. C'est bluffant. Et finalement, il existe pas mal d'alternatives au soutien-gorge comme ceux sans armature, c'est ce que je mets quand j'ai des hauts un peu transparents, ou bien les brassières et aussi les caches-tétons. Et si ça te dit de passer le cap, petit conseil, commence en hiver. Sous les pulls, c'est plus facile et on est plus à l'aise. Et si tu kiffes tes journées en soutif, c'est ok aussi. Libre à toi de faire ce que tu veux de tes tétés. Et n'oublie pas de rembarrer les mecs ou les nanas qui te font des réflexions, c'est ton corps, c'est ton choix. On leur demande, nous, s'ils ont un slip ou une culotte. Et n'oublie pas de leur dire, calme-toi, ça va bien se passer.